Bonjour, pardon, pour me présenter, Ivan Fontarinski, Thales, je suis responsable de la technique de la cyberdéfense et j'ai un fer de lance en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la threat intelligence et l'idée, c'est un peu avec nos labos de recherche, voir comment on peut, ce qu'on peut faire avec le concept de la threat intelligence, quelles sont plutôt les innovations, là où on pourrait aller, là où on peut tirer. Donc l'idée était, donc j'ai fait cette présentation, a été faite avec mon labo de recherche qui a travaillé sur tout ce qui est conception de graphes, fusion de graphes, ils ont beaucoup avancé dessus et l'idée c'était de voir comment on pouvait ce qu'on pouvait faire ensemble, ce qu'on pouvait merger ces deux activités-là et regarder nos premiers résultats. Donc la présentation sera un peu un retour un peu de l'innovation et de ce qu'on est en train d'essayer de regarder, de faire avec savoir si ça marche ou si ça marche pas justement. Donc Claire n'étant pas là aussi, mais elle est donc spécialisée sur tout ce qui est, c'est un peu la matheuse du groupe. C'était donc celle qui s'occupe plutôt de tout ce qui est fusion de graphes. Alors, moi je vais commencer déjà cette petite présentation juste par parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais l'année dernière on a parlé un peu des objets connectés, enfin de tout ce qui était IoT. Je voulais juste en parler quelques minutes parce que ça va être le début en fait de ma réflexion, c'est-à-dire que vous l'avez tous vu, c'est un truc que j'ai piqué sur les slides de l'année dernière, donc les chiffres. C'est grosso modo, pour aller vite, il y a de plus en plus de personnes, ok, pas de souci. Il y a de plus en plus d'objets connectés par personne. On est prévu en 2020 d'avoir à peu près plus de 6 objets connectés par personne. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous inquiétez pas, moi je suis dans ce cas-là, puisque j'en ai à peu près une vingtaine, parce que je suis fan de ce truc-là. Donc j'ai énormément d'objets connectés autour de moi, et ça a pour impact qu'en fait, ces petits objets-là qui communiquent sur Internet régulièrement. C'est peut-être pas des gros volumes, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça discute fréquemment. Et quand je dis fréquemment, ben en fait, on a une volumétrie qui devient de plus en plus importante. Et en plus, surtout en Europe, et c'est pour ça que ça m'a commencé à m'intriguer, c'est qu'on s'aperçoit qu'en Europe, on commence à devenir très en avance sur toute la connectivité que face. D'un point de vue mondial, et on a de plus en plus de liens, et ça a un effet en fait que je voulais justement analyser, c'était qu'en fait, bah, la personne elle-même, nous, chacun d'entre nous, on a une empreinte numérique de plus en plus importante sur Internet. On te laisse des traces, on est de plus en plus verbeux via nos petits objets, soit parce que ça indique notre position, soit ça indique maintenant notre fréquence cardiaque dès que je vais aller courir. Dès que je fais le moindre chose, il y a quelque chose qui circule et qui remonte et qui est stocké. On va tous à s'acheter, c'est les périodes de Noël, on achète forcément. Enfin, moi, je sors plus dans les magasins, donc j'achète tout par Internet. Donc, j'ai des comptes de plus en plus partout. Bref, ça bave de tous les côtés. Et donc, l'idée était de voir, grosso modo, sur toute cette empreinte de tous ces, sur une personne donnée, voir son empreinte numérique à l'extérieur et qu'est-ce que je pourrais en faire, qu'est-ce que je peux, comment je pourrais utiliser toutes ces données-là et notamment, je vais travailler surtout sur la partie des fuites de données parce que c'était facile à collecter des informations, mais il y a plein d'autres endroits où il faudrait continuer à creuser donc pour continuer cette étude-là. Mais sur ces fuites de données-là, en fait, on est assez chanceux parce qu'on va voir que on va utiliser des informations qu'on va collecter, on va essayer de les enrichir, de les relier, fusionner et un peu les opérationnaliser. Si vous voulez, c'est le process un peu plus simplifié de ce qu'on a vu juste avant, qui était bien expliqué justement dans la présentation, où on a tout ce process de threat intelligence. Là, l'idée était de faire un petit, de résumer ce concept et essayer de travailler justement sur des sources de données qui sont typiquement les fuites de mots de passe. Alors, pourquoi après avoir pris ça? D'abord parce que il y en a eu beaucoup et on n'arrête pas d'en entendre parler sur Internet. Ok, il y a plein de fuites, des sites web qui se font pirater, des choses qui sont mises sur Internet. Puis la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça a un vrai impact sur nous? Est-ce que c'est si méchant que ça? Et qu'est-ce qu'on peut en faire si c'est méchant? Bon, ben, certains, on voit des fois qu'on parle là dans la presse, il y a eu Uber qui s'est fait pirater. Bon, finalement, c'est une base de données qui date depuis un petit moment. Puis finalement, c'est assez courant en fait de récupérer une base de données aujourd'hui, puis de voir que ce sont des données d'il y a un certain temps. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a différents types de bases il y a différents types de fuites de données qui vont nous intéresser. Moi, me baser uniquement donc dans ces flux de données, il peut y avoir donc ce que j'appelle tout ce qui est credential, volé. Alors je me travaillais sur les credential volés, et là où j'avais comme élément de départ qui était une adresse email. Mais en fait, on verra qu'on peut complètement élargir la recherche. Après, il y a d'autres types de flux de données, tout ce qui est malware, social engineering. Des fois, il y a beaucoup de numéros de sécurité sociale qui sortent, de numéros de carte bancaire associés à des logins, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi des leaks des fuites de données venant de serveurs web mal configurés. Peut-être même des personnes qui font de la fuite de données parce qu'ils sont pas contents contre leur employeur, donc ils bavent, ils se donnent des documents internes. Ça peut être des fuites de données via des attaques physiques ou tout simplement bon, des problèmes de configuration, que je mettrai d'ailleurs. Sur ces mots de passe et ce credential volé, sur ce qu'on va regarder, on va regarder tous ceux qui sont qu'on peut récupérer sous la forme d'un plain text ou d'une base de données SQL ou des métadonnées. On va pas regarder, par exemple, il y a plein de sites qui les référencent déjà et qui proposent une API pour pouvoir requêter. On s'est pas intéressé dessus parce qu'on voulait pas laisser de traces et puis bon, il y avait un problème un petit peu de... on était un peu border sur certains trucs, donc je préférais rester réutiliser ça puis avoir traité correctement les informations. Donc nous, déjà dans un premier temps, sur ces types de données je vais vous présenter, on a regardé sur tout ce qui était autour et avant 2014. Pourquoi ? Bon, déjà parce que les données étaient forcément périmées, c'était une première base. Après, je voulais regarder sur la même zone en fait, la même zone de temps, parce qu'un compte que j'ai trouvé, par exemple sur LinkedIn, bah il avait de la chance de le retrouver, j'avais de la chance de le retrouver sur Adobe. En tout cas, c'était mon postulat, c'est de dire, finalement, j'ai collecté une donnée sur une personne, je vais regarder ce que je vais obtenir sur les autres sites web et regarder ce que je peux en fait finalement collecter sur chacun d'entre vous, entre guillemets. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a collecté ces données-là, on les a enregistrées, on les a modélisées dans un graphe. Donc c'est là où, pourquoi avoir fait ça ? C'est justement pour pouvoir permettre d'absorber énormément de données et puis de les corréler et de les relier entre eux. Donc on a modélisé ça dans un graphe bipartite où on va voir ce qu'on appelle des nœuds concepts et des nœuds relations, c'est-à-dire que, grosso modo, où on va voir le type de la personne, une personne peut être authentifiée par une adresse email, okay, peut être authentifiée par un numéro de téléphone. Ces éléments-là peuvent être complets ou incomplets. On verra comment on va essayer d'enrichir et de compléter ça. Et une autre personne peut être authentifiée par un nom. Donc voilà comment on va stocker toutes ces données-là. Donc si je prends l'exemple un petit peu, c'est-à-dire ce graphe, je vais le représenter sous la forme d'un JSON. En fait, j'ai 4 fichiers JSON pour une personne, je vais générer 4 fichiers JSON. Alors pourquoi ? C'est parce que dans les recherches que nous menons, en fait, la problématique de ces graphes, c'est que les algorithmes qu'on va utiliser sont des algorithmes qui sont NP difficiles. Donc en fait, le temps de travail, en tout cas le temps de calcul, est assez volumineux. Donc bon, là je peux pas trop en parler parce que c'est Claire qui s'en occupe, mais juste pour dire qu'ils sont en train justement. L'idée c'était, ils ont commencé à avoir des premiers résultats pour passer ça sous des formes MapReduce pour accélérer ça. Ils ont découpé donc ça sous forme de plusieurs étapes. Donc on a un premier JSON qui décrira la personne, un deuxième JSON qui expliquera la relation, un troisième qui est purement d'autres types de données comme le mot de passe ou comme voilà, et un autre qui pourrait être la source parce que la source est intéressante. Voilà. Donc prenons l'exemple par exemple du leak Adobe, peut-être que vous l'avez déjà regardé. C'est le premier qui m'a le plus amusé. Pourquoi ? Il est conçu comme ça, on va voir le numéro de l'ID dans la base qui a été leaké. On va avoir après le login, voilà, qui ont dans la première seconde partie. Alors, les trucs ont un peu décalé. Et on a après un mot de passe. Alors là, c'est un mot de passe qui est chiffré, mais tout ce que je vais vous montrer, c'est derrière, c'est la problématique que je vais vous mettre en évidence. C'est tous les mots de passe qui sont fuités sur Internet et qui n'ont pas de sel. Même si le mot de passe MD5 existe et qu'il n'a pas été cassé parce qu'il est très long, etc., quand il y a un mot de passe sans sel, vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent se faire à cause de cette quatrième colonne, qui est en fait l'astuce pour retrouver le mot de passe. Vous savez, le petit hint, quand on vous dit, quand vous oubliez votre mot de passe, je vais vous donner un petit indice. Donc, concrètement, pour une ligne, ça va se concrétiser sur le graphe suivant que j'ai essayé de schématiser. On va voir une personne qui est authentifiée par une adresse email, qui possède un mot de passe, et ce mot de passe, il est peut-être chiffré avec un indice. Ok. Donc on va collecter ça. On va tout organiser, on va tout mettre en place. Et puis voilà. La question après que je me suis posée, c'est ok, c'est quoi mon niveau d'intersection entre tout ça? Est-ce que je retrouve dans des bases qui fuitent, est-ce que je retrouve la donnée, une donnée, un compte, je le trouve dans toutes les autres bases? Et c'est là où alors ce qu'on a fait, c'est déjà que on a travaillé sur un premier truc, c'est supprimer les comptes qui paraissaient des faux comptes. Du style toto@toto.fr, toto@toto.com, bon, c'était pas, on pouvait pas en faire. Donc on a essayé de garder que les comptes qui paraissaient légitimes, ou les tout ce qui est IOP mail, des choses comme ça, les boîtes mail jetables, on les a dégagées. Et après on a regardé sur ces grandes fuites de données, qu'est-ce qu'on pouvait voir comme interconnexion. Et en fait là, c'est là où j'étais persuadé que partant d'une base de 150 millions, des choses comme ça, ça allait être la panacée, j'allais trouver plein de choses. Bah, pas de bol, parce qu'en fait, finalement, le croisement entre tout ça, ça m'a ramené, entre Adobe, AFF ou Gmail, bah, finalement, il n'y avait plus que 6 comptes en commun dans chacune de ces bases-là. Donc, c'était un peu la première douche froide, mais ça ne m'a pas démonté. Mais grosso modo, on s'est aperçu que si je devais faire une interconnexion entre des ligues de mots de passe, en tout cas, c'est sur ces bases-là que j'ai pris. Donc, peut-être que ça, au fur et à mesure, ça prend. Mais le problème, c'est que souvent, bah, les personnes changent peut-être un peu d'adresse mail. Souvent, ils ont peut-être une adresse mail jetable. Il y a des choses qui sont pas forcément vues, ou alors ils séparent. Ce genre, c'est peut-être pas le même public qui accédait à ces trois données-là, mais il y a moins de 0,5% d'intersection entre les bases. Oh, pas grave, j'ai pas assez de données, j'ai mes données de base, je vais les enrichir. Et donc là, on a trouvé plusieurs méthodes d'enrichissement, mais là, je voulais juste parler d'une méthode qui m'a plu et que je trouvais assez amusant de partager avec vous. C'est qu'en fait, supposez que vous ayez une adresse email. Et je voulais compléter pour savoir avec quoi elle pouvait être liée. Ben en fait, je fais un truc qui est tout simple, c'est aller sur des sites web et mettre j'ai oublié mon mot de passe. Et donc à ce moment-là, il me propose deux choses. Il me propose voulez-vous envoyer sur i@y@gmail.com et puis sur un début de numéro de téléphone, il y a des petits X, tout ça est protégé, personne ne peut le récupérer. Génial. Je vais sur un autre site web. Ah, ça complète. Oh, mon numéro de téléphone commence à s'afficher. J'avance vite fait parce que vous êtes capable de le photographier, mais l'idée derrière, c'est qu'en fait, il suffit de 3 sites web et vous récupérez 3 sites web bien choisis sur les réseaux français et vous êtes capable de récupérer le numéro de téléphone associé à une adresse email. Alors, ça, c'était un phénomène qui est vrai pendant l'année 2017. Pour être très franc, en ce moment, c'est en train de changer. Parce qu'en fait, les personnes se rendent compte, je pense que ça dure depuis un petit moment, ce problème-là. Hein. Je connaissais il y a 3-4 ans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'ils ont changé un peu leur méthodologie, qui est en fait, quand on demande j'ai oublié mon mot de passe, maintenant souvent certains sites envoient directement une adresse email. Je pense qu'encore pour ces deux sites, malheureusement, ces deux services, il y a encore, vous pouvez encore vous amuser, mais voilà. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on va avoir des sites web qui ont donc un compte, qui ont un email de récupération ou un numéro de téléphone de récupération du mot de passe. D'accord. Donc on va construire une hiérarchie. Disons, ok, ce compte-là, il y a quelqu'un au-dessus qui permet de récupérer. Et puis, si je continue, pour chacun de ces éléments-là, on s'apercevra qu'il y a une adresse email, pareil, qui permet de récupérer les informations de ce premier niveau. Donc, on a une hiérarchie de comptes qui se met important. Et donc là, je me suis dit, ben, finalement, ce qui est ultra intéressant, c'est de regarder si le compte qui est tout en haut, ben, je le retrouve pas dans des comptes qui font où il y a eu une fuite de mots de passe. Donc, en fait, le site web qui est en dessous, qui a enregistré cette adresse email-là, eh ben, devient super intéressant pour une personne. Et donc, c'est là où on commence à voir les choses. C'est-à-dire que finalement, quand je récupère le mot de passe quand je récupère un compte avec une fuite de mot de passe de quelqu'un qui est en fait son compte route, en fait, si je peux me permettre, ben, derrière, il y a tout qui tombe, en fait, derrière. Il y a tout qui tombe progressivement puisque, pour récupérer ces mots de passe, un attaquant pourrait s'amuser à remonter. Donc ça, c'est un premier constat qu'on a pu regarder. Mon problème de ce que je viens de vous expliquer, là, pour juste cet exemple-là, c'est que c'est difficilement automatisable. Ce sont des choses, j'ai essayé d'automatiser ça via l'automatisation sur du Firefox pour regarder. C'est assez compliqué. Puis après, on n'a pas voulu perdre trop notre temps dessus. On a vu que le concept pouvait fonctionner. Voilà. Donc on a trouvé d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes à côté pour enrichissement. Puis l'étape d'après qui s'occupera de relier justement et de lier ça est aussi un peu l'enrichissement. Donc on s'est intéressé plus à cette étape-là d'après. Oui, juste dire, cette méthode-là, c'est ultra pertinent en fait quand c'est ciblé. Par exemple, il y a quelqu'un qui, j'ai une adresse de, je suis en train de discuter avec quelqu'un par mail. Je veux vérifier que combien n'ont pas bien séparé le, par exemple, le concept du pro et du personnel qui utilisent leur adresse mail pro sur Facebook. Bon, et derrière, ça découle, ça tombe assez facilement. Donc, enfin, assez, disons que j'ai fait plusieurs. Ça marche par moment, ça marche pas. Je dirais une chance sur deux pour que ça fonctionne actuellement. En tout cas, sur mon entourage, j'ai demandé la permission, hein, sur mon entourage. Donc, je préfère dire, il y aurait certains qui me diraient que non. Donc là, maintenant, on va relier et fusionner ces données-là. Alors, c'est là où il y a tout le côté intéressant. C'est-à-dire que bon, nous avons donc deux graphes, deux types de graphes. Nous avions des données qui étaient plus ou moins, comme je vous les ai expliqué, qui était par exemple une adresse email, l'adresse numéro de téléphone qui n'était pas complet, on va le faire. Donc ça, c'est justement tout l'algorithme, c'est tout ce sur quoi on travaille. Alors, je vais pas trop détailler cette partie-là, mais je vous invite à lire le papier qui est un peu plus expliqué sur la méthode, et puis il y a plusieurs papiers qui sont vraiment dédiés sur le côté des graphes, sur la fusion des graphes. Le principe, c'est de rechercher c'est une recherche d'isomorphisme sur des sous-graphes. Ce que je veux dire, c'est grosso modo, on va prendre une partie du graphe, vérifier si je la retrouve ailleurs, et puis regarder ce qu'on peut mettre en place. Il y a des similitudes sur les choses où les éléments sont pas complets. Typiquement, l'adresse, le numéro de téléphone, on va supposer qu'il y ait quatre chiffres de communs entre deux graphes et sur l'adresse email, je crois que c'est trois caractères au début. Et à partir de ce moment-là, si on voit que c'est pareil, on s'est permis de fusionner. Et en fait, je crois que le résultat était pas si mauvais que ça. Donc voilà. Alors sur les données, on a beaucoup travaillé à la base sur des données de test qu'on a générées nous-mêmes pour regarder ce que ça fait. Et en fait, on s'est mis souvent plus de complexité qu'il y en avait parce qu'en fait, les sources de données à l'origine qu'on récupérait n'étaient pas assez pertinentes pour pouvoir arriver. Mais sur le concept, en fait, on a généré plusieurs centaines de milliers de comptes pour regarder si ça faisait. Bon, au départ, on est parti sur plusieurs jours de travaux justement pour fusionner ça. Vers la fin, ça mettait plus que, je sais plus, je crois qu'elle était à 1h30 ou un truc comme ça. Donc ça s'améliorait. Après, on avait fait plein de petites automatisations justement pour partir. C'était la partie heuristique qui était un petit peu compliquée, mais donc voilà. Alors, revenons sur notre cas du compte Adobe, où dedans, on avait, je vous souvenez, des logins, plein de mots de passe, plein de comptes email, plein de mots de passe chiffrés. Donc ils n'étaient pas hachés déjà chez Adobe, donc ça c'était pas bien, voilà. Mais en plus, donc réversible, donc tout ça. Enfin, je pense qu'ils ont compris la leçon. Et après, une adresse, un indice. Donc là, ce qu'on s'est amusé, c'est prendre notre principe et dire, ok, on va essayer de regrouper tous les graphes qui possèdent le même mot de passe chiffré ou alors haché sans sel, ça fonctionne aussi. Et donc là, par exemple, pour le même, on voit que l'email nestordelangel@hotmail.com possède le même mot de passe que elbabarbosa82@nestor.com. Et il y a un indice, il y en a un qui dit c'est mon prénom, et puis l'autre qui dit c'est mon travail. Bon, bref, le mot de passe c'était. Et puis on regarde sur les autres, le mot de passe c'était Nestor, c'est évident pour toutes ces personnes-là. Donc, le côté amusant, c'est qu'en fait, facilement, en fait, en regardant sur certains lignes de mots de passe, et surtout sur des mots de passe qui ont le même haché, et qui ont cet indice, là, grosso modo, bam, ça tombe, même si on ne peut pas casser par du brute force ou des choses comme ça, pas de bol. Alors bon. Donc, c'est un autre élément. Sur un autre truc, sur d'autres éléments de travaux qu'on a, c'est, je travaillais justement avec Olivier Hine, de Technicolor, qui lui travaillait sur un autre concept, et on essayait de voir ce qu'on pouvait faire ensemble, mais juste pour dévoiler une petite partie sans tout dévoiler, ce qu'on regardait ensemble, c'était le fait que on peut partir aussi sur le principe que un mot de passe qui est particulièrement long et compliqué, s'il a deux adresses e-mail qui sont dessus, on peut supposer que c'est quand même la même personne. Si le mot de passe est assez long et qu'il est assez, qu'on l'a obtenu d'une certaine manière, et que c'est très la probabilité que deux personnes mettent même le même mot de passe un peu aléatoire, tout ça est très faible. Donc, on peut essayer de regrouper des comptes de personnes qui ont utilisé le même mot de passe. Ok. Bon. On va dire que j'ai collecté de l'information, j'ai des choses dessus. Mais maintenant, l'intérêt, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, ok, une personne, elle est connectée avec d'autres personnes. Il y a eu quelque temps, il y avait un premier nick de LinkedIn il y a quelque temps, flux de données de LinkedIn. Il y a eu un deuxième qui a été remis au goût du jour, là, il n'y a pas longtemps, en disant, oh, il y avait plus que ça, haha. Donc, on va regarder en me disant, oui, c'est un super réseau social, ça, tout ça, là. Ça, on peut peut-être faire des choses avec. Et donc, ce qu'on s'est, l'idée derrière, c'était de construire une cartographie de ces différents objets, de ces différentes personnes, de ces différents mots de passe. Et pour chacun de ces niveaux de cartos qu'on va voir, qu'on va empiler, on va lui donner un score en disant, je suis assez confiant dans ça. Et on va posséder un niveau de confiance. Donc là, je vous présente ceux qui ont donné des petits trucs assez amusants. On a essayé plusieurs choses. Il y en a qui. Bah, le premier exemple, par exemple, celui-là n'a pas donné beaucoup de résultats, mais il paraissait pertinent parce que quelqu'un qui tweet un message et qu'il y a quelqu'un qui lui répond, on pouvait établir qu'il y avait un lien entre ces deux personnes-là. On a fait ça, on a joué avec les applis de Twitter, on a récupéré, on regarde comment les graphes de personnes, ça se fait beaucoup au niveau communication, marketing, évolution. Enfin, parce que je travaille aussi sur un truc d'évolution de quand une donnée a été mise quelque part, comment faire pour la voir se propager dans un autre endroit, notre pays, reflété pour voir le côté d'influence. Donc, c'était ça un peu l'idée. Bon, au départ, on écrivait nous un email, enfin un mail à une personne. Ensuite, il y a eu l'arrivée des adresses email où il y avait un mail à plusieurs personnes. Les réseaux sociaux étant, je mets un message à mon premier cercle qui eux-mêmes pour le rediffuser à leur second cercle. On pouvait vite fait construire une cartographie de ces personnes-là, surtout donc avec la fuite. La fuite de données du compte LinkedIn. Donc il y avait ce premier niveau de cartographie qu'on a pu construire. On parse la base de données, on essaie de graffer les adresses e-mail pour savoir qui discute avec qui. Il y a un deuxième point, c'est ce que je trouvais amusant, c'est des fois c'est dire que la sécurité c'est sympa, mais PGP, GPG, outil de chiffrement permettant de discuter, fonctionnement avec principe de clé publique, clé privée. En fait, il y a un principe qui fait que vous savez, les ayatollahs de la sécurité me disent ouais, signe ma clé, comme ça on est sûr qu'on est en confiance, tout ça. Ok, alors je fais bon, bah, moi je signe ta clé, j'étais gentil hein, il y a quelque temps. Puis finalement après, on est obligé de pousser sa clé sur le MIT, disant ben voilà, voici ma clé publique, elle a été chiffrée par, elle a été signée par toutes ces personnes-là. Et le principe de signer veut dire que la personne par exemple Alice connaît la personne Bob et elle a confiance dans cette personne-là. Le problème, c'est que les clés du PGP du MIT sont toutes accessibles. Et puis, il y en a plusieurs des serveurs comme ça. Donc là, l'idée, ça a été de récupérer toutes les clés PGP et de graffer toutes les personnes qui avaient signé les clés entre eux. Donc, pour savoir que cette personne, que Alice avait par exemple signé, elle connaissait Bob, Bob connaissait Charlie et Elena, Charlie connaissait Alice. Bon, bref, c'est un principe. On s'amuse et on graffe tout ça. On pouvait pas récupérer forcément tout de suite tout, donc il a fallu requêter sur l'API. Il y a une API qui est accessible, donc ça a pas pris beaucoup de temps, hein. Une journée, ça fait le job. Donc ce qui est assez sympa, c'est que là, on a visé tous les ayatollahs de la sécurité, grosso modo, tous ceux qui pensaient que vraiment, qui utilisent en fait le chiffrement. Et ça m'a rappelé une histoire, c'est que souvent, c'est souvent quand on sécurise un peu trop, quand on chiffre un peu trop et qu'on fait tout ça, des fois c'est un peu louche. Bon, là, c'est grosso modo, c'est ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, on devient un réseau de personnes là, qui se construit, qui chiffrent leur communication. Maintenant, comment je vais voir pour essayer d'adresser une de ces personnes-là via l'entourage, via son entourage. Il y a un autre élément de cartographie qu'on va regarder, qui était la cartographie un peu via les FQDN. Grosso modo, à chaque fois qu'on dépose un nom de site web, on indique une adresse email. On peut soit anonymiser, ce qui est un peu la bonne méthode, surtout dans les cas, je dirais, dans le cas du moment, mais certains n'anonymisent pas les sites web. Et puis, on a trois types de comptes à indiquer, celui qui gère, celui qui l'enregistre, le contact technique. Et eux-mêmes, l'idée, c'était de dire qu'eux-mêmes pouvaient aussi déposer le nom de domaine. Donc, par exemple, je me suis amusé, parce que je pense que vous êtes nombreux ici, défense.gouv.fr, on s'amuse, on regarde, donc c'est déposé par un monsieur qui a déposé un autre nom de domaine de service en quatre lettres, par exemple, statique, qui lui-même a déposé un autre nom de domaine, laposte.net, qui a lui-même a déposé d'autres noms de domaine. Donc on commence à voir une cartographie qui se construit de plein de choses où on a des gens qui En fait, là, l'idée, c'est peut-être qu'à deux rebonds, on ne peut pas certifier qu'ils se connaissent, mais en tout cas, à un rebond, s'ils sont enregistrés tous les deux sur le même nom de domaine, on peut se poser des questions. Enfin, maintenant que j'ai fait tout ça, on va opérationnaliser tout ça. On va voir ce que on peut en faire. Et donc, le principe un peu de ça, c'est de dire que quand on a une personne, où on a mis son empreinte, son écosystème autour de lui, et qu'on voit comment elle est connectée à d'autres personnes, ben, le concept un petit peu, c'est de dire, ben, est-ce que, enfin, ça a l'air d'être faisable, mais grosso modo, si je n'arrive pas à avoir d'informations sur ma personne centrale, si c'est ma cible, ben, en fait, je peux peut-être y aller par rebond. Et donc, c'était de fournir, en fait, c'est nous regarder, c'est finalement quand quelqu'un s'est fait avoir d'une manière ou d'une autre qu'on comprend pas, c'est comment l'attaquant a pu s'y prendre, comment un état a pu s'y prendre pour l'attaquer, et donc peut-être qu'il est passé en rebond en prenant le contrôle de quelqu'un dans sa famille, qui a par exemple, ou un de ses collègues, qui a l'habitude de perdre son mot de passe de manière très régulière. Donc voilà, donc il y avait plusieurs débouchés dessus, se disant, ben, finalement, dans mon entourage, je vais quand même faire gaffe par exemple à mon frère qui s'amuse à poser même son mot de passe tous les jours, enfin tous les jours, hein, tous les ans. Et donc, faire plus attention d'un point de vue cyber à ce genre de choses. L'autre idée était, par exemple, de se dire, bah, tiens, finalement, voici les personnes que je dois surveiller, qui ne doivent pas se faire pirater d'un point de vue cyber, et regarder si quelqu'un dans leur entourage se fait avoir. Donc voilà un peu les idées qu'on imaginait sur tout le côté un peu opérationnel. Alors, les conclusions, c'est que même des utilisateurs qui étaient plutôt sensibilisés au phishing, etc., la menace reste assez présente parce qu'en fait, le principe, c'est pas tellement vous qui pouvez être un vrai problème, c'est plutôt votre entourage qui peut être un problème pour vous. Alors, c'est un peu le principe un peu de l'habilitation, je dirais. Mais là, le côté de l'habilitation, c'est souvent c'est d'un point de vue social, réseau, tout ça. Et maintenant, bah, c'est avoir le côté un peu cyber, voir ce qu'on pouvait imaginer de faire. La construction de la base s'est révélée beaucoup plus compliquée parce que les idées ont l'air simples à la base. Déjà les sources avaient peu de recouvrement, donc il a fallu enrichir, il a fallu faire trouver plein d'éléments. Donc faut enrichir les données, faut continuer nous on s'est limité sur le postulat d'avoir juste des comptes avec les emails à la base. On pourrait travailler sur d'autres sources et élargir ce genre de choses. La fusée de graphes s'est révélée très lente au départ, il y a eu des optimisations, passage en MapReduce et tout ça pour pouvoir justement augmenter cette capacité-là. On avait le concept des graphes qui était mis en place. L'idée, c'était vraiment de l'appliquer sur un use case purement cyber. Il y a d'autres travaux en cours qui nous mènent sur la construction des réseaux de confiance. C'est des réseaux de confiance via la blockchain et disant que, par exemple, je partage un peu les idées que nous avons pour le moment, mais c'est dire que finalement, quand il y a quelqu'un qui se fait avoir dans mon entourage, peut-être diminuer ce niveau de confiance et essayer d'établir un niveau de confiance avec une sorte de score. C'est un peu les fondamentaux de la threat intelligence, c'est-à-dire que on va avoir des sources et pour chacun des sources, en fait, on va lui donner une confiance, un score, et peut-être que ben cette personne se fait avoir, donc je diminue un peu ma confiance, mon score automatiquement dessus via des principes comme ça. Ce sont vraiment des axes de recherche comme ça. Et après, est-ce qu'on avait réellement besoin des données ? Nous, on a travaillé beaucoup sur des données de test, ce genre de choses. On a regardé si tout pouvait s'appliquer correctement. Mais très bien, sur les hashes, au départ, il n'y a pas de souci. On pouvait très bien les anonymiser. C'est mon côté enrichissement où des fois, quand j'avais un élément partiel de l'élément, je ne peux pas hacher l'adresse email. Donc là, il y a un petit problème, c'est vrai, sur la gestion de la donnée privée. Je ne sais pas si j'ai parlé vite ou si c'était... Voilà, mais je suis disponible pour... Si vous avez des questions sur des choses comme ça, avec plaisir.
Merci Yvan. On va prendre une question dans la salle. On va réserver les suivantes pour la table ronde. Chaque fois que je reporte à la table ronde, ça coupe les questions. Je marque les bon, ben, merci Yvan.
Attends,
Ah, pardon. Excuse-moi.
Bonjour, j'ai juste une question. Est-ce que vos travaux sont publics ou c'est réservé à Thales
Il y a la présentation qui sera déjà publique. Donc,
et l'article
L'article, surtout, voilà, qui est sur CD-ROM, qui explique ce genre de choses. Tout ce qui est sur les résultats sur les graphes et tout ça, toute la théorie dessus est publique. Il y a déjà une première publication qui est en cours, qui a été faite à Fusion. Il y en a d'autres qui arrivent dessus pour vraiment compléter le côté graphe qui est complètement public. le côté un peu opérationnel et ce qu'on trouve sur ce réseau-là. Et sur ces trucs, on n'a pas prévu de publier ce genre de choses. Bah d'abord parce qu'on ne sait jamais comment ça peut être utilisé, et puis après, je n'avais pas prévu, en fait, tout simplement. Donc,
voilà, je vous propose de nous arrêter là et d'aller à la pause. Et donc nous reprenons dans une petite demi-heure pour la fin des échanges de la conférence.